Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et parmi les cadeaux qu'on peut offrir, bien sûr, il y a les ouvrages. Alors, les deux semaines passées, nous avons vu Jean-Claude Allard, si je puis dire, avec communion avec Dame Nature, poésie, récit poétique, illustration de l'auteur, avec une préface de Jean Bonnefond, et c'est édité par la société Arca cette année, bien évidemment. Alors nous allons passer à autre chose, hein, qu'on peut toujours offrir. Il y a trois petits volumes qui s'intitulent L'histoire de la Suzanne, c'était autrefois, et c'est édité par les abeilles de Bergerac. Alors bien sûr, c'est une édition bilingue. Édition bilingue de, comment je pourrais dire, Cairo entend, et c'est les histoires de la Suzanne. Alors Suzanne Sergenton a deux enfants et quatre petits-enfants. Elle a toujours vécu à Bergerac dans une famille d'agriculteurs, vignerons, et très attachée à sa région et à son parler. Elle est membre active des abeilles bergeracoises depuis 2006. Elle nous livre ici ses souvenirs, des tranches de vie, des anecdotes. Et puis, en quatrième de couverture, toujours très intéressant, donnez, voulez-vous feuilleter ces photos, ces souvenirs? Bien sûr, ce sont les miens, ceux de mon entourage ou de mes anciens. Ils se retrouvent ou pas dans d'autres albums. Ils reflètent notre façon de vivre et nos centres d'intérêt, parfois nos problèmes. C'est une image, un côté de la lorgnette qui s'anime à notre imagination et allume d'autres souvenirs, d'autres visions en chacun de nous. Alors, donc, les racontes de la Suzanne, l'histoire de la Suzanne, c'était autrefois, et c'est le premier volume de ces histoires. Parce qu'elle nous dit, alors, il y a un petit préambule. Et ces histoires sont écrites en Languedoc, parlées dans la région du sud de Bergerac, mouvant mélange de Limousin et de Languedocien, assaisonné de Gascon, qui peut changer selon les villages et même les familles. J'ai essayé d'être fidèle au parler de nos anciens, de rester au plus près de mes souvenirs et de ceux de mes amis, en évitant les influences récentes et en laissant parler notre mémoire commune. Certains mots peuvent paraître être particuliers. Un verger, c'est un jardin potager avec quelques arbres fruitiers. L'adverbe « avec » se dit souvent « d'aimer ». Et on mange « verspolia ». Alors, « d'aimer » un verger, c'est, bon, ça se dit également dans le saladé, mais « verspolia », bon, je connaissais pas exactement. Alors, donc, quand je dis ce livre est édité par les abeilles bergeracoises, alors je vais vous donner le courriel. Alors c'est abeilles bergeracoises, donc au pluriel, avec un tiré entre abeilles et bergeracoises, @orange.fr. Il y a bien sûr le texte. Alors, il y a un premier texte qui s'intitule « À ceux qui voudront me lire ». Et bien sûr, ça se lit aussi bien en français qu'en occitan, mais je vous le donne en français. Alors, donc, à ceux qui vont me lire, peut-être trouverez-vous un air de déjà-vu à mes histoires ou rappelleront-elles des personnages que vous avez connus, des choses que vous avez entendues dans votre vie, surtout si elle est déjà un peu longue. Ce ne sera pas étonnant et je n'en serai même très contente. Je suis une fille de la campagne bergeracoise avec des racines si profondes que je ne saurais pas partir loin d'elle trop longtemps. En fait, je dois avoir deux langues maternelles ou sinon une langue maternelle et une langue réflexe viscérale. Petite, il était quasi impensable de ne pas parler français. Mes grands-parents déjà étaient parfaitement bilingues, et papa tout gamin apprit à coup de règle à ne pas se tromper de mots à l'école. Bien sûr, ça se faisait même saladé dans les écoles, mais des fois l'instituteur prenait exemple, voilà, sur l'occitan pour des règles en français. Alors je reprends ma lecture, les aînés s'adressaient aux enfants en français, ceux-ci répondaient toujours ainsi. Languedoc restait présente dans nos fermes, nos villages, sur les marchés, mais sa pratique m'était inconnue. Elle me tomba dans l'oreille et se perdit, du moins je le croyais, dans les replis de ma vie. Puis vint le temps de moins courir après le travail, le temps de retrouver le temps, et bientôt à la faveur d'une musique, d'un chant, puis dans mon groupe folklorique, enfin de retrouver mes racines, se fit plus forte et plus envahissante. Alors, à mon grand étonnement, les mots et expressions revenaient tout seuls, comme des pas de bourré, de gigue ou de polka, que mes jambes n'oublièrent jamais, comme le sécante ou mon saint-métrip marque le tempo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Chant 50, mais c'est, bon, on en entend toujours avec une certaine vibration du cœur. Mais alors, souvent, je me surprends à penser en patois, vilain mot utilisé pour déprécier notre langue ancestrale, avec les questions de mes petits-enfants sur autrefois. La vie me vint d'écrire ces pages, brossant le tableau de mon enfance, de ce que j'avais vécu, et pour les amis qui m'encourageaient, me le traduisaient en langue nôtre, en occitan. D'abord, il y a son amie Marie-Thérèse qui s'arrachait les cheveux à me lire. Je décidais donc de prendre des cours d'occitan, et là, un miracle se produisit. Tu vas être content, Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, c'est son professeur. Et je n'ai pas le nom, je n'ai que le prénom. Je pense en langue d'oc, les mots coulent de mon stylo, en mettant mon cœur en tendresse. Les histoires me sont inspirées des conversations, des situations que j'ai rencontrées, souvent un peu mélangées, volontairement ou non. Ces personnes, je les ai connues, ce sont des lieux où j'ai vécu. J'espère ne pas écrire d'inexactitude, car la mémoire est sélective et parfois imprévisible. Sur la chronologie, j'en demande pardon, si mes histoires vous parlent, j'en serai ému et ravi. Alors, on va suivre bien sûr une série d'histoires, on va pas toutes les voir de ce livre, mais il y en a une, c'est le Tourin. Alors ça, le Tourin, évidemment, quand j'étais plus jeune, j'ai emporté le Tourin, j'en ai apporté des fois 2-3 dans la nuit, jusque vers 5h ou 6h du matin, et on était même dans une ferme où quelqu'un est arrivé en voiture, parce que le temps était menaçant, et cherchait la main-d'œuvre, bien sûr, qui était avec nous, en train de porter le Tourin. Alors donc, voici le Tourin. Il est une coutume dans le Bergeracois que je pense se perd, c'est le Tourin, que l'on portait aux jeunes mariés lors de leur nuit de noces, que l'on portait aussi entre amis pour un anniversaire de mariage, et parfois sa vraie raison. Ce qui est vrai, les anniversaires de mariage, ça se faisait, mais des fois, il y a une maison qui n'était pas trop là, on disait, tiens, au fait, vous feriez un Tourin pour la maison d'à côté, et tout le monde y allait. Alors, pour un mariage, les jeunes et ceux qui voulaient prolonger les festivités surveillaient le départ des mariés pour la nuit de noces. Certains essayaient de laisser sans savoir où ils allaient coucher, en principe dans une maison prêtée par un ami ou un parent proche, parfois dans un grenier ou une cabane. On préparait le Tourin, cette soupe à l'ail et au pain, elles oubliaient de bien la poivrer. Oui, c'est vrai que le poivre coulait à peau. Pour bien la poivrer, pour regarder les tourtereaux et parfois servir dans un pot de charbon. Ça, j'ai jamais fait, mais c'est vrai que c'était aussi une coutume. Alors, bien sûr, les bouteilles suivaient. Alors, dans ma jeunesse, c'était devenu une occasion de festoyer entre copains en allant de nuit et par surprise au quinquet, les copains mariés depuis quelques mois, voire de quelques années. Cette nuit-là, le couple visé était connu comme un peu raide du porte-monnaie, si vous voyez ce que je veux dire. Le secret fut tellement bien gardé que les convives, surprise, entrèrent même dans la chambre sans avoir éveillé les soupçons et les dormeurs, évidemment. La lumière fusa et les cris et les rires aussi. Alors le drap vite relevé, la chemise enfilée et tout ce beau monde descendit à la cuisine où la table était déjà bien remplie. Rien ne manquait. Avec le Tourin, jambon, saucisson et pâté, en veux-tu ? Ah voilà, c'est vrai que quand il est 2 ou 3 heures du matin, on a, même si on vient de porter le Tourin, on a quand même un petit creux. Et des bouteilles de vin en quantité et du bon. Il ne manquait guère que le pain, mais le maître de maison est pourvu facilement. Quelle ripaille ce fut, avec les boutades et les piques moqueuses, et rire bientôt un peu trop épais et pâteux. Quand tout ce beau monde fut repu, l'ambiance un peu calmée par le sommeil de l'heure tardive, on se sépara. Enfin, alors comme je disais, des fois il était 4 ou 5 heures du matin. Alors c'est seulement le lendemain que le mari se rendit compte que dans la nuit, les visiteurs étaient en fait entrés par la cave. Le plus agile avait dû passer par le soupirail et de là dans la maison, ouvrant la porte fermée de l'intérieur. Il leur fut facile de prendre tout le nécessaire dans sa cave et dans ses propres réserves. Voilà. Alors bien sûr, il ne se doutait pas sur le moment qu'il allait manger ce qu'il avait en quelque sorte économisé comme nourriture. Alors, il y a un autre chapitre qui s'intitule « Le cochon, l'outéchou ». Alors, le cochon, ben, c'était dans les fermes, il y avait un ou plusieurs cochons, et ça faisait quand même de la viande pour quand même toute l'année. Alors, donc, il y a un chapitre qui s'intitule, bien entendu, « Le cochon ». Alors, comme cela paraît loin et pourtant c'était du temps de la jeunesse de nos parents. Chaque ferme avait sa grange, son troupeau, avec au moins une ou deux vaches laitières, mais aussi les bœufs pour aider aux travaux de la terre. Parfois un cheval, la fermière soignait sa volaille, ses lapins, ses canards, les oies, les dindes, et même souvent une chèvre s'il y avait un bébé dans la maison. C'était le lait de substitution recommandé aux jeunes parents, aux grandes dames du potager et du rosier qui ornaient la façade. Cette gourmande a été friande. C'est vrai que les manges, les chèvres, ça mange à peu près tout. J'ai même vu qu'ils mangeaient les feuilles des prunelles qui sont toutes petites. Ils ne se piquaient pas. Alors, la guerre perturba cet état des choses avec la réquisition des chevaux et la réfaction des petits troupeaux. Puis vint le temps de la mécanisation, celui de l'exode rural, tous ces bouleversements heureux, ou moins, ont modifié nos campagnes, nos villages, nos villes, et surtout notre manière de vivre. En ce temps-là, les faubourgs étaient jalonnés de petites maisons enfouies dans un grand jardin, potager bien sûr, le jardin était potager bien entendu, où la mère de famille cultivait ses légumes en suffisance pour accompagner sa volaille. Les achats à l'épicerie se limitaient à l'huile, au sel, aux épices, au sucre, beaucoup de conserves, laine à tricoter, aiguilles, fil, le colporteur ne passait plus et les magasins étaient rares. C'est vrai que le colporteur, bon, il réparait un peu tout ce qui était troué. Alors, on trouvait la quincaillerie, le boucher pour une rare visite, ou encore plus rare, le pâtissier, bien sûr, quelques artisans, coiffeurs, menuisiers, cordonniers, blanchisseuses, repasseuses, couturières et des ambulants, rempailleurs de chaises, réparateurs de vaisselle et de casseroles. C'est vrai qu'on ne changeait pas, les casseroles étaient, quoi, je peux dire, un peu en fermante comme ça, et s'il y avait un trou, eh bien, il y avait le repasseur qui venait de temps en temps dans la campagne et on lui faisait réparer tout ça. Alors, ça continue ainsi. Mémé me faisait chanter une comptine en bougeant les jambes du bébé. Raccommoder la faïence, à grise et la blanche, fondeur de cuillère. Voilà. Alors, chacun avait un cochon nourri des restes de légumes, des patates et de sauce. C'était le monsieur, ou mouchu, comme on disait, comme l'appelaient certains, et que l'on chouchoutait jusqu'au lourd fatidique de sacrifice qui emplissait les toupines, le saloir et les boîtes pour l'année. Ce jour-là, une connaissance reconnue pour son talent de seigneur, alors bien sûr celui qui saigne la bête, venait et accompagné de toute la famille, des tantes, des voisines, on préparait boudins, saucisses et confits, rien ne se perdait ou presque, seuls les poils et les sabots. Alors bien sûr, le cochon était suspendu par les pattes arrière et il était, et bien sûr, on lui enlevait tous les poils. Voilà. Alors, durant deux jours, c'était la bousculade, la course après le temps, même si la semaine avant avait vu des préparatifs, aiguisage des couteaux, nettoyage, ébouillantage des marmites, des toupies, des pots d'hiver, récupération de la machine à hacher, du chaudron qui tournait dans la famille, car cela se servait qu'une fois ou deux par an. Et un nouveau petit cochon, bien sûr, prenait la place dans l'étable. Alors, matin et soir, on lui portait un seau de pâté mélangé de sang et de petites pommes de terre cuites, écrasées. Le soir, c'était la corvée des enfants, pas toujours avec enthousiasme. Fernande était la fille unique, elle trouvait donc que son tour venait souvent, mais on ne discute pas avec les parents. À l'époque, on écoutait les parents. Bon. Elle a maintenant 11 ans, elle sait comment procéder. Elle remplit un grand seau de fer blanc, de patates, jusqu'à la moitié après avoir écrasé avec un pilon. Elle ajoute une mesure de seau, pris chez le boulanger, puis de l'eau chaude, mais quand même pas trop, et c'est assez lourd. Elle serre les dents pour faire la grande. Elle ouvre la porte de la porcherie avec précaution pour que l'animal ne se sorte pas. Elle s'approche de l'auge, c'est la routine. Le cochon a fait, elle reconnaît bien son repas, pressé bouscule Fernande avec son groin, et bien sûr, surprise, elle trébuche et tombe à la renverse avec la nourriture sur la paille crottée. Rah ! Aussitôt debout, prise de colère dans un grondement, elle saisit l'oreille du cochon et plante ses dents avec rage. Cela fait du bien de se défouler. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'à la campagne, même en ville, eh bien, les enfants quand même avaient leur place et leur place de travail. Voilà. Alors écoutez, on va arrêter là les histoires de la Suzanne. Et on le reprendra sans doute la semaine prochaine. En attendant, eh bien, je vous souhaite d'avoir un beau temps et pas trop de vent. Voilà, au revoir, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.